CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui va nous reparler du projet de la cuisine communale.
Oui, je vais vous rendre compte de tout ce qui a été dit à la réunion publique organisée par la municipalité.
Sera suivi de Jean-Aubert Dufault qui va nous parler cette fois-ci d'agriculture biologique et plus particulièrement d'agriculture locale.
Oui, bonjour Jonathan. Alors l'agriculture biologique est-elle en danger aujourd'hui ? Bon, bah, je ne le nierai pas et je dirais qu'il y a en ce moment un mouvement de retour à ce que nous appelons sans doute à tort l'agriculture conventionnelle.
Et enfin, on terminera l'émission avec Alain Defrémont qui n'est pas venu seul cette fois-ci. Il est accompagné de Pauline Santiago qui a fait la rencontre dans les années 60 d'un certain Che.
Le Che, oui. Qui, de son vrai nom, Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Pauline Santiago, si vous vous en souvenez, est déjà venue il y a quelques semaines pour nous parler de son enfance à Chaville durant la guerre.
Tout de suite, on commence par Dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Alors Monique Couteau, tu nous as dit que tu allais nous parler de la cuisine communale, donc la cuisine collective qui est en projet en ce moment, apportée par la majorité. Comment a été organisée cette réunion ?
Alors, après une introduction générale faite par le maire, la réunion était structurée autour de deux tables rondes, animées chacune par 6 participants, les 3 maires adjoints urbanisme, transition écologique et éducation, et 3 intervenants. Le consultant auprès de la ville, qui est par ailleurs administrateur de Agores, Association nationale des directeurs de la restauration collective, dont un des points de la charte de qualité est de défendre la restauration bio et locale. Le chargé de mission au groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, une diététicienne nutritionniste. L'animateur était le maire de Châteauneuf-Grasse, donc dans le 06. Il est lui-même administrateur de 1 plus bio, alors ça c'est une association extrêmement intéressante, qui est le premier réseau national des cantines bio et qui aborde la question de la démocratie alimentaire. On ne mange pas ce que les uns ou les autres ont intérêt à produire, on produit ce que les uns ou les autres ont envie de manger. Compte tenu de ce qu'il vient de se passer avec le mouvement des agriculteurs et des reculs inadmissibles de gouvernement sur les règles environnementales concernant les pesticides, c'est un outil important et un débat qu'il faut continuer de porter partout et dans les cantines en particulier. Après chaque table ronde, quelques questions du public étaient possibles, mais il n'y en avait pas eu beaucoup.
Alors, tu as parlé de 2 tables rondes. La première consistait en quoi ?
Alors, les objectifs de la première table ronde portaient sur la restauration collective comme levier d'action pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux, éducatifs et environnementaux. Alors, rien de bien nouveau dans cette première partie. Le rappel que 85% des enfants des écoles déjeunent à la cantine, que pour certains, c'est l'occasion d'un repas équilibré et nourrissant, et c'est parfois le seul de la journée. Et pour tous les enfants, il s'agit de mettre le goût et la qualité au centre de l'assiette. Les objectifs, la lutte contre l'obésité, la lutte contre le gaspillage, et la gestion directe permet la maîtrise des choix, mais aussi permet le soutien aux productions de proximité et à l'agriculture biologique, qui elle-même permettent de transformer les territoires, de réduire les gaz à effet de serre, tout en protégeant la biodiversité, les sols, l'eau, en limitant l'usage des pesticides et des fongicides. Alors, 2 illustrations pour cette première partie. Un tableau montrant la progression des fermes bio en Île-de-France. Il y en avait 113 en 2009, 363 en 2018, 650 en 2022. Aujourd'hui, on estime le nombre à 700 en comptant celles qui sont en conversion, ce qui fait plus d'une ferme sur 10 en Île-de-France. Une carte également présentant l'approvisionnement en bio en Île-de-France. Sans surprise, 3 départements où les cultures bio sont plus importantes, la Seine-et-Marne avec 11 723 hectares, l'Essonne 5 888 hectares, les Yvelines 5 470 hectares, puis le Val-d'Oise 383 hectares et enfin 127 hectares pour les départements 92, 93 et 94 ensemble. Les productions sont variées, céréales, fourrages, élevages, prairies, légumes et arbres fruitiers.
Eh bien, une fois tout ça énoncé, qu'est-ce qui a été dit dans la seconde partie ?
Alors là, beaucoup plus la présentation du projet lui-même. Hein, donc, des repas faits maison, préparés en liaison chaude dans les écoles, et réponse à quel calendrier, quelle organisation, quelle pratique, quelle gestion des ressources humaines, quels coûts et quels aléas. Alors, c'est effectivement cette partie qui était la plus attendue. Deux documents pour l'introduire, une photo du projet du futur bâtiment de la cuisine centrale et une carte de localisation de la cuisine et des écoles concernées. Les informations qui suivent sont appuyées sur plusieurs tableaux. En ce qui concerne le planning, démolition prévue, trimestre 2 et 3 de 2024, consultation des entreprises, trimestre 3 et 4 de 2024, travaux en 2025 et au premier trimestre 2026. Puis, livraison prévue fin du premier trimestre 2026, juste avant les municipales. Parallèlement, fin de la délégation de services publics avec Elior en janvier 2025, marché transitoire avec une société jusqu'en 2026, la cuisine devient fonctionnelle, passage donc ensuite à la gestion municipale. Passage du personnel d'Elior comme personnel communal en 2025, recrutement du chef cuisinier fin 2025. Les tarifs des repas pour les familles resteront identiques à ceux qu'ils sont aujourd'hui. Ils dépendent du quotient familial. La prise en charge globale de la ville aujourd'hui correspond à 34% du coût total repas et goûter. En 2023, le coût total de la délégation de services publics en école élémentaire se monte à 1,7 million d'euros. La prise en charge des familles à 1,1 million et celle de la ville à 580 000 euros. Le budget prévisionnel sur la base de 245 000 repas par an, soit 1470 repas par jour d'école et 81 700 goûters par an, soit 350 goûters par jour, se répartit comme suit. Prévision 1 825 283 euros, 32% pour l'alimentation. Pour cette alimentation, 50% de produits durables, dont 20% de bio. 10% de frais de fluides et de produits d'entretien, 50% de frais de personnel, 8% d'amortissement. Dans ce budget, la prise en charge de la ville sera de 38%, soit 686 600 euros, c'est-à-dire plus 103 500 euros par rapport à la situation actuelle.
Par rapport au budget de fonctionnement, quelles sont les pistes pour maîtriser l'enveloppe prévue ?
Alors, l'ajustement des commandes par rapport au gaspillage. Hein, le gaspillage, ça peut atteindre jusqu'à 30% d'une poubelle. Hein, donc, ça peut être très important. La formation des agents et une organisation rationnelle du service. Et la possibilité d'augmenter la production de 400 repas. À charge d'imaginer des solutions innovantes pour cette production supplémentaire en fonction des besoins scolaires ou autres, puisque la capacité de la cuisine est de 1800 repas.
Bon, est-ce qu'il y a, comme tu dis, des solutions innovantes qui ont été proposées par la mairie ?
Non, à ce jour, non, mais ce sera un des chantiers ouverts.
Et pour le budget prévisionnel d'investissement ?
Alors, un total de 4 485 981 euros, construction et équipements divers. Plusieurs subventions sont attendues. Celle du département pour 3 500 000 est déjà obtenue. D'autres, régions, États, métropoles, CIGEF, sont en cours pour plus d'un million au total.
Alors plusieurs sujets d'inquiétude, puisque je le rappelle, c'était une réunion publique, donc il y a eu des interventions des Chavillois et des Chavilloises. Quels étaient les sujets ?
Alors il y avait la question de la pollution des sols. Sur la pollution des sols, une nouvelle étude en 2022 a conclu à la compatibilité du projet avec l'état environnemental du site, avec des risques sanitaires inférieurs au seuil recommandé, mais avec interdiction de tout captage et usage sensible des eaux souterraines. Donc pas de culture potagère en pleine terre et un réseau d'eau potable indépendant. Une troisième étude complémentaire est en cours et la saisine du tribunal administratif pour la désignation d'un expert judiciaire qui devra indiquer si les études réalisées sont suffisantes. Sur les circulations, limitation du tonnage des véhicules, encadrement des heures de livraison et sur la question des nuisances olfactives, bon, horaire de production de repas limité dans la semaine, là on peut guère dire autre chose. Enfin, il a été annoncé la création de deux locaux de tiers-lieux pour des associations au rez-de-chaussée bas de la cuisine. Un local de 20 mètres carrés et un local de 60 mètres carrés pour lesquels un appel à manifestation d'intérêt est lancé. Et Autre point, la question du mode de gestion de l'établissement d'accueil de 16 enfants n'a pas été tranchée, bien que le maire ait parlé de crèche dans sa présentation. Alors, ce qui n'est pas réglé, c'est la disparition des salles de squash pour lesquelles le président de l'association est intervenu. Et d'autres intervenants ont regretté l'absence d'un projet de plaine de sport et de loisirs sur cet espace.
Oui, parce qu'il a été soulevé qu'on remplaçait d'une certaine manière une politique publique, en tout cas la politique publique des sports, notamment le squash, par une cuisine centrale.
Oui, alors là, on peut discuter du service public. Il est clair quand même que l'intérêt d'un service public de cantine dans les écoles me paraît quand même bien plus large qu'un intérêt pour un sport. Mais bon, il y avait certaines propositions avaient été évoquées de construire une salle de squash.
Bon, oui, c'est ça,
sous la cantine. Mais est-ce que c'était possible?
L'idée demain, c'est de d'imaginer quand même pouvoir faire peut-être les deux. C'est-à-dire qu'on avait l'impression lors de la présentation que l'éventualité n'a même pas été ça n'a même pas été réfléchi, quoi.
C'est-à-dire en tout cas, et en plus, le président de l'association qui s'est exprimé ce soir-là n'en a pas parlé. Il a demandé simplement l'aide du département, etc., dans le cadre des JO, dans le cadre de toute la politique sportive. Il n'a pas reparlé d'une localisation de salle de squash à cet endroit. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est techniquement possible? Ça,
j'imagine que oui. Après, c'est plus une question économique, parce que techniquement possible, je pense que c'est pas compliqué de.
Bah, ça dépend, parce que
le squash soit conservé d'une manière.
Non, parce que il faut une grande hauteur, et s'il y a déjà, par exemple, les salles des tiers-lieux en bas, je pense que ça. En fait, je crois qu'il y a. C'est pas possible de tout faire. Voilà. Mais bon, d'accord. Je ne suis absolument pas ingénieur ni. Donc, voilà. Et voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, Monique Couteau. Évidemment, vous pouvez retrouver tous ces documents, en tout cas les documents qui ont été projetés le soir de la réunion publique, sur le site de la mairie. Tout de suite, on passe à Jean-Aubert Dufaux.
Terre à terre avec Jean-Aubert Dufaux.
Le retour à l'agriculture conventionnelle est d'actualité ces derniers jours. Peux-tu nous en dire plus? Et tout d'abord, qu'entend-on par agriculture conventionnelle?
Alors, il ne faut pas confondre conventionnel et traditionnel. Donc, si on s'en réfère à sa définition, donc c'est une agriculture où les traitements sont réalisés grâce à des produits chimiques plus ou moins nocifs. Alors, ceux-ci sont appliqués pour prévenir des maladies et des insectes nuisibles des cultures. Alors il est cependant pour moi difficile d'appeler cette agriculture conventionnelle et de l'opposer aux autres formes d'agriculture. Il serait plus à propos selon moi de la qualifier d'agriculture chimique.
Un article récent dans le journal de l'Essonne relatait le retour à l'agriculture conventionnelle d'un des pionniers du bio en Île-de-France. Est-ce un mauvais signal selon toi?
Alors oui, pour notre cantine centrale, puisqu'il s'agit de l'Essonne et c'est un des plus gros producteurs bio de l'Essonne qui bascule de nouveau sur le conventionnel. Et par contre, sorti de son contexte, le message n'est pas des meilleurs. Mais il cache aussi une réalité qui est liée au marché et à la politique agricole.
Alors qu'entends-tu par là?
Alors les marchés dictent une certaine manière la politique européenne et française, ce qui se répercute obligatoirement sur les exploitations. Alors, il faut dans un premier temps le dire, l'Europe agricole surproduit. Donc, le besoin réel de la population européenne est bien inférieur à ce qui sort des usines de transformation. La quantité de viande consommée est bien en deçà de la quantité produite. Et il y a beaucoup de gaspillage. Et malgré cela, on achète du poulet ukrainien et du bœuf ou du porc argentin, des fruits et des légumes marocains, etc. Bon. C'est en somme tout un système qui serait à revoir.
Alors dans cet article, la principale raison qui pousse cet agriculteur à retourner au conventionnel est liée au coût et à la baisse de rentabilité. Cela semble bien coller aux revendications de la FNSEA.
Et oui, et ces revendications sont, il faut le dire, culturelles. Donc l'INRAE a de tout temps prôné la croissance et la productivité au détriment de la qualité de vie. Pour y arriver, d'ailleurs, l'agrochimie a développé à travers le temps tout un arsenal de poisons destinés à lutter contre les insectes dits ravageurs, qui pourtant sont la base de l'alimentation des oiseaux et de certains petits mammifères qui sont indispensables à l'équilibre des écosystèmes. Alors ainsi, on peut considérer que la responsabilité de l'agriculture conventionnelle dans la disparition des espèces est considérable. Donc c'est à partir de ce postulat qu'une partie non négligeable des agriculteurs se sont tournés vers le bio ou la biodynamie, ayant pris conscience des impacts, Et les autres, par contre, ont fermé les yeux sur le vivant, soit par appât du gain ou pour le maintenir leur marge, et surtout en ce qui concerne les gros céréaliers et exploitations à échelle industrielle, et aussi parce qu'ils sont dépendants financièrement de ces grandes exploitations. Alors, une chose est certaine, les grands exploitants rémunèrent rarement leurs ouvriers agricoles de façon suffisante, et les grands exploitants bio ont du mal à dégager de gros profits.
Alors pourquoi ça ? Comment tu l'expliques ?
Alors, l'approche de l'agriculture biologique, respectueuse du vivant, n'est pas adaptée à de très très grosses surfaces, car elle nécessite une attention particulière. Il faut entre autres attirer la faune auxiliaire, rhabiller le paysage. C'est pourquoi ce type d'agriculture est viable et même enviable au niveau local, même pour une commune comme Chaville, mais pas lorsqu'il s'agit de produire à l'échelle nationale sur de très grandes exploitations, car l'investissement financier est alors difficile à supporter et les techniques de culture coûteuses à mettre en place et en suivi à très très grande échelle.
Est-ce qu'il y aurait une solution qui permettrait aux agriculteurs de vivre de leur production sans que soit remis en cause la rentabilité ?
Alors, c'est justement la notion de rentabilité qu'il faut jouer. Et une fois de plus, cela démontre la nécessité de changer de paradigme. Donc, la répartition de la richesse pourrait aussi se faire en la restructuration des exploitations et en les repensant à taille humaine. Le partage des terres en réduisant à 10 ou 20 hectares maximum les grandes exploitations permettrait de mieux répartir le travail et de rendre la propriété agricole accessible à un maximum de personnes en redécoupant les exploitations et surtout d'appliquer avec un meilleur taux de succès les techniques de permaculture ou bio. Ensuite, et nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, la suppression des intermédiaires de la distribution est nécessaire et il faut développer à minima la fibre commerciale chez nos amis agriculteurs. Et ça serait un plus d'ailleurs.
Alors que la FNSEA a réussi à nous faire sortir du plan Ecophyto, comment peut-on aujourd'hui agir afin d'infléchir cette politique qui va mettre à mal notre santé ?
Oui. Et c'est surtout signer l'arrêt de mort d'une grande partie du vivant à court terme. Et tu as résumé en quelques mots toute la problématique. C'est à travers nos pratiques de consommation que nous pouvons infléchir tout cela. Mais une fois de plus, consommer bio n'est pas à la portée de toutes les bourses hors promotion. Alors il est aussi à noter que dans le discours s'appuyant sur le fait que la politique française est une des plus restrictives d'Europe en matière d'utilisation de produits phyto, tient plus de la posture que de la réalité. Alors, deux sources EFSA publiées il y a quelques semaines, donc c'était le 24 janvier dernier, la France détient en réalité la triste 4e place européenne sur 28, de par le nombre de substances actives autorisées en agriculture conventionnelle derrière l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Et cela, il ne faut pas hésiter à le dire, car la posture des gros exploitants et de la FNSEA sur le sujet tient presque de l'hérésie. De plus, il est à noter qu'en faisant mourir les petites exploitations, ceux-ci n'hésitent pas une seule fois à s'agrandir afin de faire croître un peu plus leurs profits en les rachetant, tout en affichant des postures politiques plus que limites. Alors il serait bon que nous gardions en tête que développer une agriculture bio est possible en réduisant donc la taille des exploitations et manger moins de viande, de poisson et surtout des légumes de saison sera de toute façon nécessaire pour soutenir une agriculture humaine et surtout plus locale. Car oui, une agriculture chalvilloise est possible. Elle a déjà existé par un passé qui n'était pas très ancien. Alain nous en a parlé d'ailleurs il y a quelques mois. Et cela passe aussi par une politique de dédensification de la population au niveau des grandes agglomérations, en favorisant entre autres les nouvelles méthodes de travail. Donc il est plus que jamais urgent de réformer en profondeur notre civilisation.
Merci beaucoup Jean-Aubert Dufaux. Tout de suite, nous avons Pauline Santiago qui est en train de prendre place le temps du jingle.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Eh bien, je suis heureux de retrouver mon amie Pauline Santiago que nous avions reçue il y a quelques semaines pour nous parler de son enfance à Chaville durant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Pauline.
Bonjour à tous. Je voudrais commencer cette émission en rendant hommage à Américo Nunes da Silva qui a travaillé avec moi à Alger et qui a bien connu le Che.
Bien, merci Pauline. Nous allons faire encore un retour en arrière avec toi, mais cette fois en 1963. Tu exerces alors la fonction de secrétaire médical et un ami dont tu viens de parler, qui vient de disparaître, Américo, te propose de partir avec lui en vacances en Algérie.
Nous sommes en juillet 1963. Avec un ami, Américo, nous décidons de partir en Algérie. L'indépendance vient de s'instaurer après des années de guerre terribles. Mon compagnon avait des amis à Alger. Nous décidâmes de partir pour passer des vacances. Nous sommes descendus à Marseille prendre un bateau pour cette traversée, après avoir eu un certain nombre de difficultés pour trouver des places sur le bateau, car il y avait beaucoup d'Algériens qui rentraient au pays, après souvent des séjours en France parsemés de beaucoup de difficultés, heureux de rentrer au pays. Le voyage se déroula bien, et quel bonheur et quelle beauté d'arriver par bateau sur la rade d'Alger-la-Blanche. Il faisait beau et c'était très émouvant de voir le sourire sur le visage de tous ces hommes qui rentraient au pays.
Et arrivé à Alger, que vous arrive-t-il ?
Nous étions attendus par des amis d'Américo, tous deux journalistes. Ils nous hébergèrent et ils nous ont raconté leur vie passionnante à Alger. Car le pays venait, après de longues luttes, gagner son indépendance et tout bouillonnait, donc les journalistes avaient beaucoup de travail. En attendant, nous fîmes un peu de tourisme dans cette ville et un soir, Carlos et Patricia nous dirent avoir fait la connaissance d'un journaliste cubain, directeur de l'agence Prensa Latina, qui nous a dit chercher des traducteurs pour l'agence qui venait de s'installer dans le centre d'Alger. Pourquoi n'iriez-vous pas ? Carlos Lanza prit rendez-vous pour le jour même à l'agence et nous voilà, Américo et moi, partis au rendez-vous. C'était sur la place principale d'Alger, en face de la Grande Poste, dans un bel immeuble au 4e étage. Là, nous étions attendus par Miguel Brugueras. Moi, j'étais connue car mon mari était employé à l'ambassade de Cuba à Paris. C'était donc une référence morale pour eux.
Et alors ensuite, que vous est-il arrivé encore ?
Après un interrogatoire sur nos parcours et nos connaissances de la langue espagnole, il nous a remis le dernier discours de Fidel Castro. Un long discours, et il nous demanda de le traduire en français pour le lendemain matin. Je signale que nous n'avions pas de dictionnaire ni de machine à écrire. Donc toute la soirée et toute la nuit, nous avons traduit le discours avec quelques défaillances, mais le lendemain matin, encore très fatigués, nous retournâmes à l'agence pour remettre notre travail. Je dis à Américo, nous n'avons aucune chance. Mais à ma grande surprise, Miguel Brugueras, après avoir lu la traduction, nous dit être embauchés tous les deux à l'agence Prensa Latina. Nous étions très heureux. Le remercions. Et c'est ainsi que le lendemain, nous commençâmes à travailler au 26 rue Claude Debussy, l'ancien consulat de France à Alger, un petit palais dans le style mauresque. Et en plus, nous avons pu bénéficier d'un bien vacant, c'est-à-dire un appartement non loin de l'agence, à la Roberto, que du bonheur. Il est vrai que notre travail consistait à recevoir des téléx, il n'y avait pas de réseau comme maintenant. Les téléx arrivaient de la Havane en passant par Prague, la nuit, et le matin dès 7h, nous devions être à l'agence pour les traduire et les faire distribuer aux agences et journaux algériens vers 9h. Aussi, quelquefois, nous faisions des interviews des personnalités algériennes ou des leaders africains.
Et là, vous travaillez alors presque 2 ans à l'agence, et puis un beau jour.
Ainsi se déroulaient nos journées. Et le soir, nous étions souvent invités à des réceptions à l'ambassade de Cuba. Pour moi, ce fut une période très heureuse de ma vie que je n'oublierai jamais. J'ai aussi effectué quelques voyages, par exemple, avec un groupe de médecins cubains qui venaient travailler en Algérie. J'oubliais aussi un festival cubain de films où j'accompagnais les vedettes du cinéma cubain, si belles et si charmantes. Ce fut une vie de rêve et de travail, certes assez fatigante, mais nous étions si enthousiastes devant ces découvertes.
Et un beau jour.
Et un beau jour, je ne me souviens plus de la date exacte, en 65, on nous annonça que le commandant Ernesto Guevara allait venir à Alger pour une conférence. Le jour venu, on nous téléphone de l'ambassade que nous pouvions venir à l'aéroport pour l'accueillir. Quelle ne fut pas notre joie. Effectivement, l'avion atterrit et nous vîmes descendre le Che en habit militaire, souriant, Après les officiels, il vint nous saluer. Nous étions très émus. Puis retour à l'ambassade pour un pot d'accueil. Là aussi, nous fûmes invités. Le soir, nous rentrâmes à la maison. Puis le matin, à l'agence, faire un papier sur l'arrivée du Tché pour être distribué.
Et ce lendemain, que se passe-t-il ?
Vers midi, un coup de fil de l'ambassadeur, Jorge Serguera, qui me dit « Voilà, le secrétaire du Tché vient de tomber malade, rapatrié à Cuba, donc toi et Américo, vous allez l'accompagner et travailler avec lui. » Je poussais un cri, et je ne suis pas capable. Alors il me dit sur un ton solennel « C'est un ordre. » Et il raccrocha. Je devins blême et dis à Américo « Je ne saurais pas. » Lui souriant, « Mais si, de toute façon, c'est un ordre. » Alors à cet instant même, on sonna à la porte de l'agence et c'était le Tché, souriant, qui me dit « Qui c'est Paola ?» Ben, je lui dis « C'est moi. » Alors il souria et dit « Allons-y. »
Et alors, quelle était la teneur du discours du Tché ?
Le 24 février 1965, le Tché va faire un discours dans le contexte du séminaire économique de solidarité afro-asiatique. Ce discours restera célèbre, car il était très important. Nous l'avons travaillé ensemble. En particulier, je lui fis répéter, car il tenait à le dire en français, les U. Pour un Cubain, c'est difficile à prononcer. Nous avons fait de nombreuses répétitions et le jour arriva, nous nous rendîmes tous à l'hôtel Aleti. Et là, devant un parterre composé de journalistes, de personnalités algériennes, de leaders africains réfugiés à Alger, le Tché commença son discours en français. Et lorsqu'il descendit de la tribune, il vint vers moi pour me demander « Ai-je bien prononcé les U ?» Je le rassurai « Très bien ». Il sourit et alla rejoindre la tribune. Nous fûmes tous très contents et ensuite il donna quelques interviews aux journalistes. Le devoir accompli, nous étions très heureux.
Merci Pauline. La semaine prochaine, je vous lirai un article d'un journaliste algérien, Mohamed Redouane, qui nous parle du Tché à l'occasion de cette visite à Alger en février 65. Avant de nous quitter, je voudrais aussi me retourner encore une fois vers Pauline, parce que Robert Badinter vient de disparaître à l'âge de 95 ans et nous avons eu la chance de le rencontrer lorsqu'il est venu à Chaville à la fin des années 90 pour une pièce alors que Pauline était maire adjointe à la culture. Dites-nous quelques mots, Pauline, sur cette rencontre.
Auparavant, nous connaissions déjà Robert Badinter car avec Jean Levin, nous avions participé à sa campagne pour les sénatoriales. Donc, à ce moment-là, on nous a proposé la pièce sur Oscar Wilde qu'avait écrit Robert Badinter et l'Atrium l'a accepté et on l'a joué à l'Atrium, ce fut un grand succès. C'était une très grande machinerie, très, très compliquée à mettre en place. Mais enfin, bref, on l'a fait. Et puis, à ce moment-là, après la représentation, le soir, comme d'habitude, on a fait une grande fête. Et là, on a eu la joie qu'il soit avec nous, ainsi que Jorge Lavelli, le metteur en scène. Voilà.
Merci, Pauline.
Dire, mais peut-être tu en parleras la prochaine fois, l'importance politique de ce discours d'Alger qui a fondé le guévarisme par son aspect internationaliste, par la remise en cause de la politique et du RSS et de la Chine. Et ça a été aussi un des moments de rupture avec Fidel Castro, le début. Donc c'est vraiment un discours, tu as assisté à un discours absolument fondamental dans ce qu'a été le guévarisme et dans ce qu'a apporté Che Guevara à la lutte anticoloniale dans tous les pays.
Le journaliste algérien, Mohamed Redouane, en parle.
Oui, merci Monique, c'est tout à fait exact ce que tu viens de dire. Et nous avions eu la chance de discuter, évidemment, en aparté avec lui, pendant qu'il nous avait donné ce manuscrit à traduire, écrit à la main par lui. Et on avait bien conscience qu'il se passait quelque chose.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Alain. Merci Pauline Santiago pour cet incroyable témoignage. Vous revenez ici, évidemment, quand vous voulez. Je crois que c'est la deuxième fois que vous venez. On vous reçoit la prochaine fois avec plaisir dans les studios de Radio VCE. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, 8h. C'était Jonathan Denuit sur Radio VCE.